France Musique. Les grands entretiens, François Bonnet.
Bonsoir, c'est Eliane Radig, compositeur ou compositrice, comme il vous plaira. J'ai bientôt 88 ans et je continue à sévir dans cet univers du sonore.
Eliane Radig, bonsoir.
Bonsoir François Bonnet.
Alors toute cette semaine, nous avons eu la chance de parcourir ensemble la genèse de votre musique, qui a longtemps été exclusivement une musique sur support. Mais cela a changé il y a presque 20 ans, à l'époque concomitante où vous vous séparez du ARP 2500, et vous débutez une autre forme de travail. Alors vous avez évoqué hier en fin d'émission, Casper Toplitz, qui a été le premier finalement à vous extraire du monde de la musique sur support pour la musique instrumentale. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre et puis sur quoi elle a débouché ?
Nous avons travaillé ensemble chez lui, mais la basse électrique est un univers musical assez proche, même je n'étais pas trop dépaysé. C'était encore son électronique, et j'avais repris comme thème le tout premier, je crois que je l'ai cité hier ou avant-hier, enfin je ne sais plus, Elemental, qui à chaque fois était pour moi une des périodes de transition. Ce que j'avais fait chez Pierre-Henri quand j'étais toute seule à partir des bandes que j'avais enregistrées à Nice. Et donc, je l'avais fait alors là toute seule au moment d'une reprise au synthétiseur. Et donc là, c'était Elemental 2. Donc, c'est le parcours des éléments était relativement facile. Cette fois-ci, je les voulais beaucoup plus stylisés et symboliques. Symbolique alchimiste ou le symbolisme que l'on retrouve aussi dans le monde tibétain. Et donc, c'était un partage extrêmement intéressant, vraiment. D'ailleurs, il en avait fait deux enregistrements, un au début et un beaucoup plus tard. Et ce qui permet de voir toute l'évolution naturelle qui se fait de ces pièces avec des instrumentistes. Et croyez-moi, pas n'importe quel instrumentiste.
Thank you.
si maintenant je passe à la continuité, et la continuité que je dois à Charles Curtis, qui a été donc alors le premier violoncelliste, et pas n'importe qui, à me demander une pièce, c'était incroyable, absolument incroyable, qu'un musicien comme Charles Curtis veuille faire un travail avec moi. Et donc, il a été le premier avec lequel j'ai travaillé l'instrument acoustique. Au départ, je ne savais pas si je n'allais pas associer cela avec un peu d'électronique. Mais là, comme j'ai toujours fait, il m'a fallu découvrir avec Charles Curtis les possibilités de cet instrument dans, légèrement en dehors de ses capacités ordinaires, enfin habituelles plutôt. Et donc, il y a ce fameux wolf tone. Oh, le wolf tone, qu'est-ce que c'est pour un instrument acoustique? C'est l'équivalent d'un feedback, quelque part. C'est-à-dire là où la caisse se met en double résonance, et de la même façon que les Larsen sont alors la plaie des ingénieurs du son, pour un instrumentiste, qu'il y a un wolf tone au milieu d'une pièce, c'est impossible, ça ne marche pas. Et le wolf tone est très intéressant, parce qu'il peut se déplacer, et ce wolf tone extrêmement sauvage, je peux vous dire que maintenant, avec Charles Curtis, c'est devenu alors le plus dévoué des toutous, qui fait exactement tout ce qu'il veut, parti de là. Donc ça a été toute une exploration du violoncelle. Il utilise la base du cordier, il utilise la pique, il utilise enfin, donc ce que tous les instrumentistes font déjà, mais c'était le faire d'une manière beaucoup plus concentrée et toujours avec ce système d'écoute très attentive, non pas comme un effet parmi d'autres, mais essayer de chercher ce que la pique voulait dire, par exemple. Et quand la pique commençait à dire quelque chose, il fallait tout réaccorder le reste. Et alors, les conditions d'accordage de Charles, c'est quelque chose mais d'incroyable. Donc, c'est là où j'insiste beaucoup. Ça a l'air d'un paradoxe. Cette musique qui a l'air tellement simple peut être une catastrophe si elle n'est pas jouée par d'excellents instrumentistes. C'est d'une très haute virtuosité qui n'est pas celle du brio, de la rapidité d'exécution, mais celle au contraire d'un contrôle absolu de l'instrument. C'est comme si nous essayions de marcher lentement en décomposant les pas que l'on fait. quand même que je vous dise un peu ce qui m'intéresse dans cet univers sonore aussi. Outre la découverte du wolf tone, qui a été pour moi la manière de faire la transition avec mon vocabulaire et mes recherches. Mais il y a toujours eu aussi, avec la musique électronique, d'essayer de tirer les fils de toutes les composantes qui servent à la modulation de fréquence des sons et constituent les différentes formes de réponse des instruments, un son de violon. Donc c'était ça que je trouvais passionnant à redécouvrir. Et donc c'était d'essayer de capturer, je pourrais dire capter, mais en l'occurrence plutôt capturer, cette richesse sonore qui est bien évidemment a besoin d'une fondamentale pour pouvoir s'exercer, voire plusieurs, mais ne sert que comme une énergie pour produire toute la richesse de ces partiels. Et toutes ces partiels qui peuvent se manifester également sous forme de légers battements, de pulsations, évidemment d'harmoniques, de subharmoniques. Et là, ça a déterminé la base de la construction que j'avais déjà, quelque part, c'est-à-dire des nuances plutôt dans les pianos, pas trop forts, parce que ça écrase toutes les subtilités de la matière sonore, mais si ce n'est pas non plus assez fort, alors là, ça devient très pauvre. Et c'est déjà ce qui était le cas avec la musique électronique, et que là, je reprenais. J'ai toujours repris mes vieux dadas, à ceci près que j'ai pu, pour la première fois de ma vie, je l'ai dit quand nous avons terminé les trois Naljorla, c'est-à-dire celui de Charles Curtis, le duo de Carole Robinson et Bruno Martinez, et bien entendu le trio. Le trio, on sait quand une pièce est terminée, dans sa structure, il y a bien sûr pour les musiciens encore énormément de travail. C'est comme quand on a terminé un déchiffrage sur une partition. Et je leur ai dit merci, pour la première fois de ma vie, j'entends enfin la musique que j'ai toujours rêvé d'entendre et que je n'avais jamais pu accomplir avec l'électronique, parce que chaque fois que je terminais une pièce, bon, c'était parce que j'avais assez travaillé, mais ce n'était pas satisfaisant. Ceci étant, c'était une induction pour me dire bah, « j'y arriverai peut-être la prochaine fois ».
France Musique, les grands entretiens d'Éliane Radigue.
Vous mentionnez les Najorla, et depuis quelques années déjà, vous avez ouvert un grand cycle.
Ah oui,
le
oui.
Okam Océan. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'idée motrice de ce cycle ?
Oui, ça c'est un très grand cycle. C'est un cycle que je ne peux pas l'arrêter, parce que par définition, par principe, ce sera une œuvre inachevée, parce inachevable de par sa construction, puisqu'elle est cette œuvre est constituée au départ par des solos qui ensuite se reconstruisent avec les mêmes interprètes, bien entendu, parce que le travail avec les solistes est celui qui détermine leur manière spécifique de pouvoir jouer cet univers sonore.
D'ailleurs, vous dites que vous ne composez pas pour un instrumentiste.
Je travaille pour un instrumentiste, c'est-à-dire que l'unité se fait entre l'instrumentiste, moi, et l'instrument. Et donc, cette phase est extrêmement importante, après laquelle on envisage des duos, des trios, des quatuors, et maintenant, il y a même une pièce orchestrale, faite par Lansem, mais je crois qu'on en est à... Quelqu'un m'a dit 70, mais je crois pas. Enfin, bref, je vérifie. Enfin, je disais 50, disons, soixantaine de pièces, justement. Mais je me suis arrêtée après 27 solos. Il y en a 27, ça suffit.
Alors, comment se déroule la constitution d'une
alors,
pièce ?
Alors, la construction de cette pièce, alors celle-ci, on peut dire qu'elle a une très longue conception. Parce que dans les années 70, très exactement, ben, l'année où j'ai fait ce fameux Psi 847, où j'étais allée visiter le musée des sciences naturelles de Los Angeles, et j'ai trouvé tout en haut d'une salle un long bandeau près du plafond qui présentait l'ensemble des fréquences électromagnétiques connues, qui allaient donc de la Terre au Soleil d'un côté, mais il est clair qu'il y en a encore beaucoup plus hein, au-delà, et des plus grandes encore. Donc c'était un vertige, mais je n'avais pas trouvé le moyen de faire ça toute seule. Et je me suis dit, bah, avec des musiciens, c'était peut-être justement avec ce concept de multiplication à l'infini. Et donc le deuxième principe était de ramener ce vertige à quelque chose de plus accessible physiquement. Et là, bien évidemment, c'était l'océan. Ça parle au corps, au moins, et ça parle à l'esprit. Puis il y a eu aussi cette troisième règle que j'ai toujours appliquée, mais que là, je demandais aux musiciens d'appliquer, qui est la règle du rasoir d'Occam, ce théologien anglais du XIVe siècle, qui a établi, bon, je ne citerai ça de la façon la plus simple, « The simplest, the best », dans une situation où émergent différentes possibilités. Si on a un problème, c'est pas la peine d'en rajouter, mieux vaut en enlever, voir ce qu'on peut enlever. Et donc, ça, c'est la règle du jeu. Ce sont nos trois règles principales. À partir de cela, chaque pièce est unique et faite, comme vous l'avez souligné, pour chaque musicien ou chaque groupe de musiciens, parce que nous choisissons un thème basé sur cette histoire de l'eau, puisque c'est l'histoire de l'eau. Et il est évident qu'une pièce ne sera pas la même si elle commence par simplement l'émergence de quelques petites gouttes d'une source au flanc d'une montagne ou par une cascade, si elle évoque un grand fleuve ou si elle évoque une marée ou si elle évoque... Enfin, donc il y a autant de possibilités d'évocation, et ça on le choisit ensemble. Je pense là surtout au solo. Je demande d'abord à ces musiciens s'il y a un endroit pour eux qui leur est particulièrement familier. Ça peut être une fontaine, ça peut être un morceau de rivière au bout d'un pont. Et à partir de là, on développe ce qui équivaut à établir la structure d'une œuvre. C'est ce que j'appelle leur partition, qui s'avère beaucoup plus utile qu'on ne le croit. Parce que, comme toutes les partitions, une fois qu'ils jouent, c'est destiné à être oublié, une partition. Hein, on joue par cœur. Mais par contre, quand on était longtemps sans jouer, on est bien content de la retrouver pour pouvoir retrouver les petits endroits où ça accroche encore un peu. Et c'est arrivé deux fois. À l'époque, je ne prenais pas encore moi-même des notes parce qu'on ne donne pas forcément nos thèmes. On n'a pas envie que les auditeurs soient là à dire « Ah bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça ne l'est pas? Mais où on est ?» Non, non, il faut qu'ils s'abandonnent. Ça, c'est notre histoire à nous. De la même façon qu'on n'a pas besoin de lire une partition pour écouter de la musique. Et deux fois, c'est arrivé, ils avaient oublié et ça a été catastrophique. Ils avaient essayé, il n'y avait plus rien qui se passait. Il a suffi de rétablir le thème et ouf, les choses sont revenues toutes seules.
Hélène Radig, c'est sur cette évocation de ces Ockham Océan, ce grand cycle inachevable et inachevé que l'on doit, nous, achever cette semaine en votre compagnie. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.
Mais merci à vous surtout d'avoir accepté ce bavardage absolument sauvage et informel comme je le suis. Il n'y a pas de grande théorie, je n'ai jamais eu de grande théorie musicale. J'ai simplement parcouru cet univers sonore avec ce qu'il m'apportait, ce qu'il me donnait. Et je suis ravie qu'il puisse encore avoir quelque intérêt pour d'autres que ce qu'il m'a apporté.
C'est sur cet extrait d'Ockham Océan, une œuvre de 2015 d'Eliane Radig, que s'achèvent ces grands entretiens. Prise de son Yann Fressy, mixage Pierre Monteil, attaché d'émission Flora Sternadel, réalisation Christine Amado.
À réécouter sur francemusique.fr.